d'être juste. Je ne sais pas si vous avez choisi d'être juste, mais peu importe. Le Seigneur, il entend nos cœurs, n'est-ce pas?
Okay.
On est rassurés. Donc, je vous invite à ouvrir la Bible ensemble, justement dans l'évangile de Jean. On continue dans une petite série dans l'évangile de Jean. Au chapitre 1, et la lecture d'aujourd'hui, ce sera le verset 19 jusqu'à 34. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 19 jusqu'à 34. Je vais demander à Nathalie de lire pour nous. Jean, chapitre 1, 19 jusqu'à 34, s'il te plaît.
Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ?» Il déclara et sans restriction affirma « Moi, je ne suis pas le Messie. » Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc ? Es-tu Élie ?» Et il dit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ?» Il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu ? » Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Ésaïe. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète ? Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. » Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit aussi ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. »
Voilà, la parole de Dieu pour vous ce matin. Est-ce que vous avez déjà joué à Qui est-ce ? Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. On est deux personnes à jouer, chacun un petit plateau devant soi, avec plein de visages, plein de prénoms. Et on doit deviner le personnage choisi par la personne en face de nous. Et généralement, ça se passe en posant des questions et on procède par élimination. Donc, par exemple, est-ce que le personnage que tu as choisi a une moustache ? Non, voilà, ok. Donc, moi, je supprime tous les personnages sur mon plateau qui ont une moustache, et ainsi de suite. Est-ce que c'est Lucette ? Est-ce que c'est Eddie ? Voilà, pour le grand suspense jusqu'à la fin du jeu. J'espère que vous avez déjà joué à ce jeu, sinon, c'est un chouette jeu à jouer. Et justement, on reprend l'évangile de Jean au moment où les Juifs de Jérusalem sont en pleine partie de qui est-ce. Ils mènent leur enquête pour savoir qui est cet homme qui baptise et proclame un message de repentance habillé à la façon d'Élie. Ils ont du mal à voir le sens de tout cela et bien sûr au-delà de tout ça, ils doivent déterminer si Jean le Baptiste, c'est un charlatan qui trouble le peuple de Dieu, ou si son ministère est authentiquement de Dieu ou non. Donc on va regarder justement quel est le témoignage de Jean aujourd'hui. On a vu au début du chapitre 1, si vous remontez juste un petit peu dans la Bible, par exemple au verset 6 et 7, l'évangéliste Jean, l'apôtre Jean, il a dit « Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean, Jean-Baptiste, d'accord ? Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. » Et puis aussi au verset 15, toujours du premier chapitre, Jean le Baptiste, a rendu témoignage à cette parole faite chair et s'est écrié, c'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Donc, on retrouve un petit peu les éléments là du témoignage de Jean. L'apôtre Jean, d'accord, il va zoomer et nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Le rôle de Jean-Baptiste, donc, c'est de rendre témoignage à celui qui est la parole de Dieu. C'est de rendre témoignage à celui qui est la lumière, celui qui est la révélation ultime et parfaite, finale de Dieu. Alors, il faut d'abord comprendre que le témoignage dont il est question ici, c'est pas simplement raconter un souvenir, c'est pas simplement raconter une histoire, mais c'est raconter les faits dans le cadre d'une enquête, dans un cadre légal. Donc c'est pas une histoire inventée, c'est pas un mythe, même s'il y a des contes qui ont une morale et qui peuvent nous enseigner des choses, mais c'est pas vrai ici. C'est une histoire sérieuse, qui a un poids, qui est déterminante pour une enquête. Je sais pas si vous avez déjà eu à témoigner dans le cadre d'une affaire judiciaire. Vous savez que potentiellement, en tant que citoyen, citoyenne, on peut être appelé comme juré dans certains procès pour assister, pour examiner les indices, les faits. Peut-être que vous avez déjà été témoin d'un accident de la route, par exemple, et vous avez été interrogé, ou alors vous avez dû noter votre témoignage, justement, dans le constat. Donc c'est ça l'idée ici, dans le témoignage de Jean-Baptiste. Et donc, il y a une délégation de responsables juifs qui est envoyée de Jérusalem pour enquêter sur Jean-Baptiste et son ministère, et déterminer si ça vient de Dieu ou non. Il pose la question directement. Es-tu le Messie? Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un parler de la manière qu'ils se disent peut-être, voilà, peut-être que c'est lui le Messie. Qu'est-ce qu'il y a dans le titre Messie? On va commencer par éliminer les fausses pistes. On a quelques jeunes parmi nous. Donc Timothée, c'est pas Lionel Messi du Barça, d'accord? Ça, c'est bien, je vois qu'il s'emballe un petit peu là, donc je dis non, c'est bien sûr d'avoir Messi dans son équipe pour sauver une place de podium en championnat sur PES. Mais ici, c'est pas ce Messi là, d'accord? Ok, donc. Messi, c'est quoi? C'est le roi choisi par Dieu. C'est le roi rendu puissant, capable de sauver. Et c'est un personnage qui était attendu par les Juifs pour les temps de la fin. Du point de vue humain, il est un descendant de la dynastie de David, de la tribu de Juda. Et Jean-Baptiste, il dit, bah, d'abord c'est un descendant d'Aaron et de Lévi, ce n'est pas lui, il sait, je ne suis pas le Messie. Il répond, il n'y a pas plusieurs Messies, il y en a un seul, et Jean-Baptiste, il dit, c'est pas moi. Alors, ils reviennent à la charge, mais alors qui es-tu donc? Est-ce que tu es Élie? Est-ce que tu es le prophète? Il mentionne encore deux autres figures attendues par ceux qui connaissaient les Écritures. Rappelez-vous, c'est des Juifs, ils connaissent l'Ancien Testament et savent que dans les temps de la fin, il y aura des personnages qui vont arriver. Ils attendent ces temps de la fin et se demandent, est-ce que ça y est? Est-ce que c'est Élie? Est-ce que c'est le prophète? Alors, es-tu Élie? Il lui demande. Pour les Juifs, ce prophète qui est monté au ciel dans un chariot de feu, vous vous rappelez, doit revenir au jour dernier, au jour de la fin. Et en fait, pour eux, il peut venir à n'importe quel moment. Encore aujourd'hui, le peuple juif attend la venue d'Élie. Et donc, pour la petite histoire, une chaise doit lui être réservée en certaines occasions, comme la Pâque, par exemple. On lui garde une coupe sur la table parce que ça se pourrait qu'il débarque à ce moment-là. D'ailleurs, on a un témoignage très concret de cette attente du peuple juif ici même, à la synagogue de Carillon, si vous avez déjà visité, dans un des angles de la synagogue se trouve la chaise d'Élie. Au cas où il arrive, il peut s'asseoir, mais on l'attend. Il y a quelque chose qui est prévu pour lui. C'est le prophète Malachi, au chapitre 3, verset 23, qui dit, de la part de Dieu, que Dieu dit, je vous envoie Élie, le prophète, avant que n'arrive le jour du Seigneur. C'est-à-dire le jour du jugement, dans la pensée de Malachi. La fin du monde. Et son rôle, d'après Malachi 3, verset 1, sera de frayer un chemin pour le Seigneur. Tiens, comment ça se dire? Il y a des petites indications ici. Mais Jean-Baptiste, il dit, je ne suis pas Élie en personne, revenu en chair et en os. Car il le dit très clairement. Au moment, il les met un peu sur les dents, mais ça ne va pas trop. Continue encore. Es-tu the prophète? Et oui, parce que là encore, le peuple d'Israël, averti par les Écritures et par Moïse lui-même, attendait the prophète. Il y avait bien des prophètes, envoyés par Dieu dans toute l'histoire du peuple d'Israël. Et pour un certain nombre d'entre eux, on a une trace écrite de leur ministère. Mais dans le livre de Deutéronome, au chapitre 18, Moïse affirme que dans la suite des temps, vers la fin, Dieu enverra The prophète. Un prophète ultime, final, complet. Quand on l'entendra lui, on entendra la voix de Dieu lui-même. Moïse et tous les autres prophètes qui se sont succédés ne sont que des maquettes, des belles maquettes qui disent déjà beaucoup de choses. Ils reflètent. Mais avec The prophète, le peuple aura la parole de Dieu comme jamais auparavant. La présence d'un prophète, au fait, c'est une bonne nouvelle. Hein. Ça signifie que Dieu parle, qu'il communique, c'est qu'il n'est pas fâché. Imaginez, dans un couple, quand il y a du silence dans un couple, c'est pas bon signe, n'est-ce pas? Surtout si ça s'installe, n'est-ce pas? Un prophète, alors c'est quelqu'un qui a une relation particulière avec Dieu, une relation de proximité. Comme Moïse, vous rappelez qu'il parlait avec Dieu face à face comme on parle à un ami. Un prophète, c'est un messager qui transmet un message de la part de Dieu. Il transmet, il ne fabrique pas. Et quand Dieu parle, alors c'est un signe, une source de bénédiction. Et vous imaginez un peu que, voilà qu'après 400 ans de silence, 400 ans, pendant lesquels Dieu n'a pas suscité de prophète, de porte-parole, voilà un type qui arrive, habillé à la façon d'Élie, et qui appelle le peuple de Dieu à se détourner de son autosuffisance, à chercher et demander la venue du pardon, de la libération de Dieu, qui enjoint le peuple à chercher justement le libérateur, le Messie, que Dieu doit envoyer. Alors, normal que les autorités religieuses s'interrogent à Jérusalem, et il dépêche une délégation pour mener l'enquête. Mais Jean-Baptiste y répond de nouveau très clairement. Je ne suis pas le prophète de Deutéronome 18. Oui, il vient rendre témoignage à la lumière. Il vient rendre témoignage à celui qui est la parole. Mais il n'est pas le prophète. Ok. Jusqu'ici, donc, on comprend qu'il n'est pas Élie. Même si, on dirait, son ministère est comme celui d'Élie, il n'est pas THE prophète, mais dans la lignée de tous les prophètes qui l'ont précédé, et en accord avec eux, il annonce, lui aussi, la venue d'une révélation plus grande, plus complète. Et, justement, dans le lien avec ces prophètes qui ont précédé, Jean-Baptiste, puisqu'il le presse encore de questions, demande à la délégation de Jérusalem de sortir leur iPad et autres tablettes, certains ils en avaient en pierre à l'époque, et de cliquer sur le lien qu'il vient de leur envoyer, c'est-à-dire un lien vers Ésaïe 40. Donc Jean-Baptiste, il attire l'attention de ceux qui l'écoutent sur une autre personne, bien plus importante. Lui, il n'est pas le Messie, mais il prépare la voie au Messie. Et Jean-Baptiste, pour le moment, il s'appuie sur l'Écriture pour rappeler le profil du Messie, pour faire un croquis de tout ce qu'on peut savoir dans l'Écriture en ce qui concerne la personne et l'œuvre du Messie. Et je vous invite à lire avec moi, du coup, dans Ésaïe, au chapitre 40. On va suivre le lien Jean-Baptiste fait. Ésaïe 40, au verset 3. Et on va lire 3 à 5. Ésaïe 40, verset 3 jusqu'à 5. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. On apprend trois choses quand on suit le lien que fait Jean-Baptiste. D'abord, la voix qui crie dans le désert, c'est lui. Il dit, là maintenant il répond positivement. Oui, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. La voix qui crie dans le désert, c'est Jean-Baptiste. Et l'entendre alors, c'est savoir qu'un événement imminent est sur le point d'arriver. Et on est juste dans les tout derniers préparatifs. L'image dans l'Ésaïe, c'est la construction de routes nouvelles ou de routes refaites réhabilitées pour faciliter l'arrivée d'un personnage extrêmement important. Il y a quelques années, je voyageais de Paris à Strasbourg en voiture, et à certains moments, on pouvait longer, sur la 4, on pouvait longer les travaux de la ligne TGV Grand Est. Et vraiment, c'était impressionnant. Des fois, on avait un peu de hauteur par rapport aux travaux sur la ligne, et on voyait que des collines, littéralement, avaient été taillées pour faciliter le passage du TGV, parce que des côtes trop importantes, ça marche pas. Donc, les machines avaient creusé dans les collines pour aplanir les routes. Des plaines avaient été nivelées, des ponts avaient été jetés au-dessus des vallées. Il y avait une longue trace visible sur des kilomètres dans le paysage. Et bientôt, le TGV allait filer sur ses rails, droit, à toute vitesse. Peut-être que vous avez encore les images, peut-être que vous avez suivi ça, donc du nouveau président élu, quittant son QG de campagne la semaine dernière, n'est-ce pas, avec une escadrille de motards ouvrant le chemin dans les rues de Paris, tout gyrophare allumé. Ok, il arrive, poussez-vous, faites place. Et l'arrivée de Jean-Baptiste, sa voix qui crie dans le désert, c'est l'annonce que l'arrivée du libérateur, du Messie, elle est imminente. Vous voyez, cet événement, c'est l'arrivée d'une personne qui manifestera la gloire de Dieu, qui va révéler qui est Dieu, qui va révéler la présence même de Dieu. L'événement, c'est Dieu lui-même qui vient, en fait, il nous dit Ésaïe, dans la création, de façon visible et manifeste pour toute l'humanité. C'est la deuxième chose qu'on apprend. Et la troisième chose, si vous lisez encore avec moi, venez un petit peu plus loin, au verset 11, toujours de Ésaïe 40. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. Voyez bien cette image, un berger qui prend les brebis dans ses bras, qui conduit le troupeau. C'est Dieu. Dieu, quand il vient, c'est pour prendre soin de son peuple. L'image, c'est celle d'un troupeau dispersé, comme nous le sommes, comme l'humanité l'est, à cause de sa propre rébellion. Des hommes et des femmes qui ont cherché à s'éloigner de leur berger, qui ont cherché dans d'autres bras la consolation que Dieu seul pouvait donner, qui ont persisté dans cette attitude au point d'être totalement perdus, égarés, abattus, sur le point de mourir de faim, à la merci de tous les dangers. Mais Dieu dit qu'il va intervenir, qu'il va venir en personne pour rassembler son peuple égaré, pour le conduire, pour le protéger, pour le soigner, pour l'aimer. Voilà ce que Jean sait à partir des Écritures. Et vous voyez la surprise du texte, la surprise pour les chefs religieux qui continuent de l'interroger, c'est que Jean-Baptiste annonce maintenant que ce profil-là, ce qu'on sait là, cette personne qui va venir, eh bien c'est Jésus. Vous voyez la logique du texte. Si on revient donc dans l'évangile de Jean, on voit que le lendemain, après toutes ces questions, verset 29, Jean-Baptiste voit Jésus s'approcher et lui dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et puis il développe un peu encore cette pensée-là. Que faisait Jean exactement? Des gens venaient le voir et il les baptisait. Le baptême était le signe extérieur d'une volonté de se purifier devant Dieu. C'était donc un signe de repentance. Voilà, une personne qui s'accorde avec la volonté de Dieu, qui veut rendre droit le chemin du Seigneur, quand une telle personne acceptait ce baptême. Le baptême, c'est le signe d'un nouveau départ dans la vie. Mais ce nouveau départ est possible que s'il y a le Messie lui-même. Alors on cherche, comme tous ceux de son époque, ont dû se poser la question, mais qui est-il? Et voilà Jean-Baptiste qui va prendre les trois informations qu'on a eues dans Ésaïe 40 et qui va les appliquer maintenant à Jésus. Il prend les trois éléments du profil, Et il dit, et ça c'est Jésus, la venue du Messie a eu lieu avec la venue de Jésus. L'événement n'est même plus imminent. Il a eu lieu maintenant. Le lendemain, Jean-Baptiste s'écrit, voilà le libérateur. Et vous voyez ça donc au verset 29 à 31. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher. Et Jean-Baptiste atteste que Jésus est le Messie promis. Puisque son arrivée a eu lieu, alors on doit s'attendre à un changement radical. Deuxièmement, et vous me permettez, je vais faire un petit peu de données. Pardon. Deuxièmement, Jean-Baptiste dit quelque chose de spécial à propos de Jésus. Une phrase un peu énigmatique. Il dit, après moi, il le répète à plusieurs reprises, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Et vous vous rappelez, dans Ésaïe 40, on a dit, mais c'est Dieu qui arrive lui-même. Et Jean-Baptiste, il affirme, en même temps l'humanité de Jésus, tout autant que sa divinité, il est rien de moins en train de dire que Jésus est Dieu. Il est annoncé par Jean-Baptiste, il vient après Jean-Baptiste, mais son existence remonte avant Jean-Baptiste. Avant que Jean-Baptiste n'existe, Jésus était déjà là. Jésus existait déjà. Et donc, ça c'est une affirmation de Jean-Baptiste en ce qui concerne la divinité de Jésus. Il dit « Jésus est Dieu ». Et regardez, rappelez-vous, au chapitre 1, la parole, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et est venue vers nous. Jésus est donc le Messie, le libérateur venu accomplir l'œuvre de Dieu. Il est Dieu lui-même, il est celui qui révèle et exprime parfaitement et totalement la gloire de Dieu. Dieu, personne ne le connaît, mais le Fils qui est dans l'intimité du Père est celui qui nous l'a fait connaître. Et troisièmement, puisque c'est Jésus qui est le Messie, il nous dit aussi, voilà comment le Messie va accomplir son œuvre. Le Messie qui délivre, le roi sauveur, c'est aussi l'agneau de Dieu. Vous avez remarqué cette image bizarre. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, dit Jean-Baptiste. Un agneau offert en sacrifice qui, par son sang, peut faire l'expiation du péché, effacer, enlever le péché du cœur du peuple. Le voilà, dit Jean, celui qui est capable d'opérer un vrai changement. Le voilà, celui qui rend le signe du baptême réel, celui vers qui il faut aller pour un nouveau départ. Dieu avait préparé son peuple dans l'Ancien Testament, au travers du système des sacrifices, pour comprendre qu'un remplaçant pouvait se substituer, pouvait prendre la place d'un coupable. Quelqu'un pouvait payer à la place d'un autre. Et en l'occurrence, Dieu acceptait la mort et le sang d'un animal à la place de la mort d'un homme ou d'une femme à cause de leur péché. Mais même si vous ne connaissez pas tous les détails du système des sacrifices dans la loi de Moïse, vous pouvez facilement comprendre que pour une faute, il faut une compensation, n'est-ce pas? C'est la logique de la rétribution sur laquelle notre propre système judiciaire actuel se fonde aussi. Petite faute, un délit, petite amende. Grande faute, crime. Alors, prison est quand même plus lourde. Mais quelle rétribution est possible pour une faute infiniment grave de rébellion contre Dieu? Si tu tues quelqu'un, pourrais-tu lui redonner la vie? Si tu désires la mort de Dieu, qui peut payer pour ça? Nous avons offensé Dieu. Notre péché est inexcusable et détestable. Il nous rend coupables devant Dieu. Il nous couvre de honte. Mais Jean, en voyant Jésus, en pointant vers lui, a dit, voici l'agneau de Dieu qui est capable, lui, d'enlever le péché du monde, le péché de nos cœurs, le péché de n'importe quelle personne. Rien n'est trop grave, ni trop difficile pour Dieu, ni trop hideux. Jésus est l'agneau que Dieu donne pour payer le prix de nos fautes à notre place. C'est un remplaçant valable pour nous car il est humain tout comme nous. Mais c'est aussi quelqu'un qui est capable de payer un prix infini pour notre offense infinie parce qu'il est Dieu lui-même. C'est un agneau sans défaut, parfaitement saint, parce qu'il est divin. C'est le seul qui peut nous sauver. Et cela, le prophète Ésaïe l'a dit aussi. Et c'est certainement dans l'esprit de Jean-Baptiste quand il s'écrit « Voici l'agneau de Dieu ». Vous connaissez ce passage, je vous invite aussi à le prendre avec moi dans Ésaïe au chapitre 53. Le prophète Ésaïe au chapitre 53. À partir de versets 6, 6 et 7, Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui, sur son serviteur, nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, et il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tombent, il n'a pas ouvert la bouche. Vous vous rappelez le profil d'Ésaïe 40? Dieu arrive, c'est imminent, il va manifester sa présence, il va manifester son œuvre de salut, il va agir comme un bon berger qui prend soin de son troupeau. Vous voyez le choc. Le berger va en fait se sacrifier pour son troupeau. Il va prendre la place d'un agneau parfait pour épargner tout le reste de son troupeau. Donc Jean-Baptiste affirme, voilà le Messie que vous attendez, c'est Jésus. C'est lui qui est cette personne attendue et voilà ce qu'il va faire. Alors je ne sais pas quand on vous dit quelque chose d'énorme. Je ne sais pas si vous avez déjà quand vos enfants sont venus, peut-être ils vous ont annoncé papa, maman, on attend un enfant, ça y est, bonne nouvelle. Peut-être vous avez un petit temps de doute, un petit temps de choc et ils ont eu du mal à y croire. Ah, tu nous fais une blague, c'est vrai. Parce que la nouvelle, elle est tellement énorme, tellement forte. Vous voulez être sûr. L'annonce que fait Jean-Baptiste, elle est énorme. Parce que si c'est vrai, alors ça change le cours de l'histoire humaine dans son entièreté. Beaucoup de gens peuvent se lever et annoncer soit qu'ils sont eux-mêmes le Messie, je te bénisse. Beaucoup de gens peuvent se lever et annoncer qu'ils sont eux-mêmes le Messie, ou annoncer qu'ils connaissent un Messie, qu'ils connaissent un libérateur. Localement, ici même, à Avignon, peut-être que certains ont entendu parler du Christ de Montfalé, un postier, je crois, quelqu'un qui travaillait à la poste, qui un jour s'est avancé en disant, voilà, imaginez qu'il était une réincarnation du Christ, et qui malheureusement a réussi à rassembler autour de lui un certain nombre de personnes. Mais quelle preuve tu nous donnes pour affirmer de telles choses, Jean-Baptiste? Il faut des preuves, n'est-ce pas? Désolé, c'est un peu le sujet du moment, c'est un peu frais dans l'actualité, mais comment savoir si Emmanuel Macron a été élu? Ok, la télé le dit, mais si on veut vraiment des preuves, il y a le Conseil d'État qui peut vous dire à la voix près combien de suffrages il a récolté par rapport aux autres candidats. Et normalement, il y a toute une chaîne, chaque bulletin de vote a été compté, les scores ont été compilés, chaque fois ça a été validé par des personnes accréditées, et puis, donc aujourd'hui on peut dire, voilà, il y a eu autant de voix pour elle, autant de voix pour elle. Il y a des archives, j'imagine, quelque part, il y a des preuves, le vote, normalement c'est incontestable. Regardez, qu'est-ce qui permet à Jean-Baptiste d'être si catégorique là? Quelle preuve nous donne-t-il pour soutenir des déclarations à part l'Écriture, bien que ce soit une bonne preuve? Pourquoi Jésus? Pourquoi cette Écriture s'applique-t-elle à Jésus? Et vous voyez ça au verset 33. 32 et 33, je relis juste avec vous. Jean, Baptiste, rendit aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui, sur Jésus. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi j'ai vu, et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Celui qui a envoyé baptiser d'eau, c'est Dieu le Père. C'est toujours lui qui initie les plans, qui place les hommes, les femmes qu'il choisit, qui organise les circonstances. L'autorité de Jean-Baptiste vient de Dieu lui-même. Et Dieu le Père a donné une indication précise à Jean-Baptiste pour qu'il ne s'imagine pas que c'est une petite voix qui a résonné juste en lui-même. D'ailleurs, cette preuve-là, d'autres l'ont vu aussi, en ont été témoins. Cette preuve, c'est qu'au moment où Jésus a été baptisé dans l'eau, au moment où il est ressorti de l'eau après son baptême, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, comme une colombe s'est arrêtée sur lui. Matthieu nous rapporte même dans son évangile qu'il y a une voix qui a retenti du ciel pour dire « Voilà mon Fils bien-aimé, celui qui a toute mon approbation. » C'est un événement unique. Je ne sais pas si vous étiez là au baptême de Lucas en juin. Si vous lisez les baptêmes dans les livres des Actes, on n'a pas constaté, ni en juin, ni dans le livre des Actes, qu'à chaque fois que quelqu'un est baptisé, une colombe descend sur lui, et qu'une voix retentit du ciel, de façon audible, pour dire voilà. Donc il fallait ce signe, pour ce qui concerne Jésus, pour avoir une certitude, parce que l'enjeu est immense. Et là encore, regardez comme c'est en plein accord avec ce que Dieu a prévu dans les Écritures. On lit beaucoup dans Ésaïe ce matin. J'espère que vous avez gardé la page. Venez avec moi à Ésaïe 42, au verset 1. Ésaïe, au chapitre 42, au verset 1. Dieu présente son serviteur. Dieu présente son Messie. Dieu présente le libérateur qu'il a choisi. Il dit, voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi, et qui a toute mon approbation, j'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Donc Dieu lui-même a accrédité directement Jésus. Et Jean-Baptiste donc a vu cela. Il ne s'est pas laissé berner par un manipulateur. Son témoignage repose sur les Écritures, mais aussi sur des faits réels. Il n'a pas supposé simplement que Jésus pourrait bien être un bon Messie. Mais il a vu de ses propres yeux cette colombe, comme d'autres l'ont vu. Il a entendu cette voix, comme d'autres l'ont entendu. Il a eu la confirmation de Dieu lui-même. C'est le témoignage de Dieu en réalité qu'il est en train d'apporter. Il a reçu ce témoignage de Dieu et il témoigne à son tour. Et voyez ce qu'il dit, verset 34. Et moi, j'ai vu et j'atteste que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, vous rappelez le but de l'évangile de Jean, c'est que tout ce qu'il écrit, c'est pour nous convaincre que Jésus est le Christ. Jésus est le Messie, le libérateur choisi par nous. Et qu'en croyant cela, nous ayons la vie en son nom. Et donc, Dieu a suscité l'apôtre Jean, mais Dieu a suscité Jean-Baptiste. Dieu va susciter encore dans son évangile d'autres témoins pour que nous croyions que Jésus est le Christ. Jésus, on ne peut pas le connaître autrement que par une révélation. On ne peut le connaître que parce que Dieu l'a révélé, par ses prophètes. Bientôt, on va le voir par ses apôtres. Leur témoignage est vrai. Devant le tribunal de l'univers, de l'histoire humaine, ce témoignage compte de façon décisive. Ce n'est pas juste une idée. Ce n'est pas juste un changement de culture. Ce n'est pas juste une technologie. Ce n'est pas plus de bonnes œuvres, pas plus de sous. On n'a pas le choix entre différentes personnes qui pourraient venir nous libérer. Celui que Dieu a choisi, c'est Jésus, c'est lui le Christ. Si vous n'êtes pas du genre à croire et gober n'importe quoi, alors regardez, Jean a vu, il est un témoin oculaire, authentique. Et tout ce qu'il dit se fonde sur le témoignage de Dieu lui-même. Si c'est le cas, et puisque c'est le cas en fait, quelle bonne espérance pour nous aussi, parce que Dieu est le Dieu qui peut vraiment transformer nos vies, qui peut réellement purifier notre cœur, notre être tout entier, et le consacrer à lui. Si vous avez été baptisé, si vous avez fait profession de votre foi, si vous avez déclaré publiquement que vous appartenez à Christ, et que peut-être ça vous arrive de douter, est-ce que c'est un film? Est-ce que je me suis juste convaincu moi-même? Non, regardez votre baptême, votre engagement, il est vrai. Il va tenir. Dieu va produire la purification de votre cœur. Parce que il y a un Messie qui existe, qui est réel. C'est Jésus. Et si vous n'avez pas encore pris cet engagement, alors l'invitation, elle est encore claire pour vous aujourd'hui, ce matin. Il y a des raisons solides pour croire en Jésus et recevoir de lui le pardon et la vie éternelle. Venez à lui, repentez-vous, croyez, croyez-le. Jésus est celui qui est capable de nous donner un nouveau départ. Alors je vous invite à courber le front, prendre quelques instants de silence et prier pour conclure. Merci notre Dieu, notre bon berger, parce que tu as pris soin de nous, tu as envoyé ton Fils. Tout cela est vrai, authentique, attesté dans l'histoire, par ceux qui ont vu et qui affirment que tout ce qu'ils ont vu est vrai. Seigneur, merci parce que notre foi repose sur un témoignage véritable, le tien. Merci parce que encore bien des siècles et des siècles après, tu nous as révélé aussi la personne de ton Fils. Merci parce que tu nous as conduit à le connaître, lui. Seigneur, nous te remercions pour le nouveau départ que nous avons reçu, parce que tu as donné l'agneau parfait qui ôte nos péchés. Seigneur, merci que nous pouvons vivre dans la certitude que tu vas prendre soin de nous pour toujours. Seigneur, je te prie pour ceux et celles qui doutent. Viens au secours de leur foi, renforcés, Seigneur, dans leur foi. Et pour ceux qui n'ont pas encore connu Jésus, révèle-toi à lui, s'il te plaît. Nous prions aussi pour cette ville, pour cette région, que d'autres aussi puissent entendre notre témoignage à propos du Messie et être sauvés. Seigneur, merci pour ta bonté. Amen.